Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je vous avais dit pour la fête de l'Épiphanie que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté trois fois sa divinité. D'abord, sa divinité, sa royauté, plus exactement. D'abord, en acceptant l'ordre des rois mages le 6 janvier, puis le même 6 janvier, mais une autre année, bien sûr, lors de son baptême. Et aujourd'hui, c'est la troisième manifestation qui est expliquée par l'Évangile, lors de son premier miracle. Notre Seigneur Jésus-Christ va changer l'eau en vin à Cana de Galilée, et dit l'Évangile, ses disciples crurent en lui. Eh bien, mes chers frères, il nous faut bien sûr utiliser nous aussi le même miracle pour augmenter notre foi, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un peu comme les apôtres. Nous croyons, mais notre foi est bien souvent faible. Il faut dire à notre Seigneur, Seigneur, je crois, mais augmentez ma foi. J'espère en vous, mais augmentez mon espérance. Je vous aime, mais augmentez la vertu de charité en moi. Alors, je voudrais aujourd'hui insister un petit peu sur ce sacrement de mariage, puisque c'est l'Église catholique qui nous explique que c'est en ce jour, le jour du miracle de Cana, que notre Seigneur Jésus-Christ a surnaturalisé le mariage et a transformé le mariage en sacrement, l'institution du sacrement de mariage. C'est donc, selon la tradition de l'Église, en ce jour de Cana, du miracle de Cana, que notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de ses apôtres et de sa Sainte Mère, a changé l'eau en vin. Alors, je voudrais insister sur ce sacrement de mariage, puisque le sacrement de mariage est vraiment une pierre fondamentale de la société catholique. La cellule de base de la société, c'est la famille. Et le démon le sait. Et donc, ne soyez pas surpris si, de nos jours, nous voyons se dérouler devant nous des attaques absolument invraisemblables contre le mariage chrétien. Tout faire pour détruire le mariage chrétien. Pourquoi ? Parce que le mariage chrétien, encore une fois, la cellule de base de la société catholique, et la société tout court d'ailleurs, est évidemment la cellule de base aussi de l'Église. Puisque s'il n'y a pas de famille catholique, il n'y a plus d'Église, strictement parlant. Puisque l'Église a besoin des familles catholiques, de même que les familles catholiques ont besoin de l'Église, bien sûr, mais l'Église catholique a besoin des familles catholiques pour justement amener d'autres enfants à prendre le relais de notre Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé ses apôtres en disant allez, bénissez, donnez le sacrement, prêchez, baptisez. Celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ne soyons pas étonnés, bien chers frères, si nous voyons aujourd'hui justement cette attaque terrible contre le sacrement de mariage. Alors, si nous voyons le sacrement de mariage étant tiré vers le bas, étant détruit par les ennemis de l'Église, officiellement, je dirais, c'est normal. Pas étonné du tout de voir les francs-maçons, les juifs ou les protestants attaquer le sacrement de mariage. Mais le grand malheur de notre temps, c'est qu'aujourd'hui, le sacrement de mariage est détruit d'abord et avant tout par l'Église de Vatican II et Bergoglio, qui a une responsabilité énorme dans cette destruction des sacrements. Pourquoi ? Parce que le sacrement de mariage, mes bien chers frères, est fondé sur trois choses. Le bon Dieu a voulu pour qu'un mariage soit valide, qu'il y ait trois conditions absolument sine qua non. Comme pour un contrat. Si les conditions du contrat ne sont pas remplies, il n'y a pas de sacrement. Il n'y a pas de contrat. C'est la même chose pour le sacrement de mariage. Ces conditions sont donc sine qua non, nous dit la théologie, et indispensables à la validité. L'unité, l'indissolubilité et l'acceptation des enfants. Et si quelqu'un se mariait sans avoir ces trois conditions bien ancrées dans son cerveau, dans sa volonté, dans son intelligence, le mariage devient absolument invalide. Et le démon le sait. Et il sait que donc, il faut, pour pouvoir détruire la société, il faut rendre les mariages invalides. Parce que quand les mariages sont invalides, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les parents, à ce moment-là, les époux, n'ont plus les grâces d'état nécessaires pour élever leurs enfants. Donc les enfants ne seront plus élevés, et littéralement vont se développer comme une vigne vierge qui n'est plus taillée, et faire des catastrophes, tout va être détruit, et tout va partir en destruction. Et on le voit. Actuellement, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est l'unité du mariage chrétien. Le mariage chrétien, c'est quoi ? C'est un homme et une femme, pour toute la vie. Pour le meilleur, pour le pire, en richesse et en pauvreté, en bonne santé et en mauvaise santé, jusqu'à la mort. La mort détruit le sacrement de mariage, parce que la mort la mort détruit le sacrement de mariage parce que le sacrement de mariage, pardon, n'a pas de caractère, contrairement au sacerdoce. Le prêtre garde son sacerdoce pour toute l'éternité, y compris au ciel, purgatoire et malheureusement en enfer. Mais le mariage s'arrête au moment de la mort des deux époux. Entre la mort d'un des deux époux, il n'y a plus de sacrement de mariage, il disparaît à ce moment-là. Et on voit malheureusement comment l'Église de Vatican II attaque cette unité par toutes les phrases ambiguës prononcées par Bergoglio ces dernières années, ces derniers mois surtout, pour laisser croire que les unions sont possibles aussi entre deux hommes, entre deux femmes, comme il raconte malheureusement maintenant, et toutes ces abominations qu'on entend. La faiblesse actuelle de Bergoglio est épouvantable parce qu'il y a une responsabilité terrible dans cette destruction. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Encore une fois, détruire l'unité. Puis la destruction de l'indissolubilité. Alors là, c'est déjà fait complètement. Bergoglio a complètement détruit l'indissolubilité du mariage chrétien en multipliant par des dizaines de milliers de fois, multipliant toutes ces annulations absolument invalides la plupart du temps, invalides de mariage. Ils savent ce qu'ils font, mes bien chers frères. Et enfin, les enfants, alors là, c'est malheureusement aussi quelque chose de très clair. L'Église catholique a toujours dit qu'il fallait, pour avoir un mariage chrétien valide, il fallait que les époux aient l'intention d'avoir le nombre d'enfants que le bon Dieu veut qu'ils aient. Et évidemment, malheureusement, on le voit très, très bien partout maintenant, comment l'Église de Vatican II fait tout pour détruire complètement l'idée même d'avoir des enfants. Et partout, c'est de plus en plus clair dans tout ce qu'ils disent, dans toutes les allusions, c'est pas dit directement, mais c'est dit comme ça. Les dernières abominations du synode des évêques sur le mariage, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Bergoglio a accepté dans la pratique, a accepté de reconnaître que le concubinage de deux époux, de divorcés, remariés, est tout à fait acceptable parce qu'ils peuvent finalement recevoir le sacrement même sans avoir regretté ce qu'ils ont fait. Alors, mes chers frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Il faut se battre parce que si on ne fait pas attention, ces idées, mes bien chers frères, vont rentrer dans l'âme de nos enfants. Pour entrer dans l'intelligence de nos enfants. Et le démon le sait, il va tout faire pour mettre ses idées dans l'intelligence, surtout des adolescents. Lentement détruire l'idée de l'unité, détruire l'idée de l'indissolubilité, détruire l'idée et que le mariage est d'abord fait pour les enfants, pour avoir des enfants. On sent très bien, on voit toutes ces attaques pour séparer le sacrement de mariage de la procréation. Alors que le sacrement de mariage a été fait pour la procréation. C'est pour ça que le bon Dieu donne le sacrement de mariage. Donc si quelqu'un veut se marier sans avoir d'enfant, sans vouloir avoir le nombre d'enfants que le bon Dieu veut qu'il ait, et au mieux qu'il ne se marie pas, parce que de toute façon son mariage sera invalide. Et la deuxième attaque, on la voit très bien, qui est de plus en plus manifeste, c'est aussi mettre dans l'idée, dans la tête de nos futurs mariés, qu'on peut facilement obtenir une annulation de mariage. Rappelez-vous, mes bien chers frères, rappelez-vous l'enseignement de l'Église sur le sujet qui ne peut être changé parce que c'est un enseignement divin, c'est défidé. Et deux fois divine qu'un sacrement de mariage donné entre deux catholiques, le mariage chrétien entre deux catholiques, un mariage consumé et ratifié, ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. Dans tous les livres de théologie. Il faut peut-être le rappeler à beaucoup de gens aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a de plus en plus de gens dans la fontaine de Saint-Pélis, il y en a de plus en plus, et malheureusement aussi dans le milieu cédévacantiste, attention, parce que le démon ne s'arrête pas aux portes du cédévacantisme, il essaie de passer aussi à l'intérieur. Et nous avons maintenant, même dans le milieu cédévacantiste, des gens qui croient possible d'aller tranquillement se faire démarrer, entre parenthèses, démarrer dans l'Église de Vatican II, et après revient tranquillement avec une nouvelle épée chez vous. Attention, mes bien chers frères, ceci est inadmissible, on ne peut pas accepter ça. Je vous donne pas de nom, bien sûr, mais je pourrais vous donner des exemples de gens, par exemple, qui m'ont entendu prononcer cette phrase, qui est dans tous les livres de théologie d'abord Vatican II, et qui m'ont dit, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit de dire qu'un sacrement de mariage entre deux catholiques ne peut être annulé par aucune puissance au ciel et sur la terre. Ils m'ont dit ça. Dieu lui-même ne peut pas annuler un mariage ratifié, consommé entre deux catholiques. C'est clair. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas séparer ce qu'il a uni. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Mais oui, je veux dire comme c'était important de comprendre ces choses-là et de mettre ça dans l'esprit de nos enfants. Parce que si nos enfants commencent à avoir cette espèce de doute qui entre maintenant dans les âmes, comme une espèce de ver qui rentre dans l'âme pour la ronger de l'intérieur, si le doute se met dans l'âme de nos enfants, dans l'intelligence de nos enfants, que le mariage est en principe indissoluble, mais dans la pratique, on peut, dans certains cas, envisager une annulation de mariage et pour pouvoir se remarier tranquillement auparavant, ça fait que les mariages vont devenir de plus en plus invalides. Et si les mariages sont invalides, ça veut dire qu'il n'y a plus les grâces d'État. Et s'il n'y a plus les grâces d'État, les mariages s'écroulent, c'est aussi simple que cela. Il dit, monsieur l'abbé, c'est bien difficile. C'est vrai que c'est difficile. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez, quand il est monté sur la croix pour sauver tous les hommes et pour ouvrir les portes du ciel, certainement il s'est dit, c'est pas très facile de sauver ces gens qui pensent plus aux conséquences du péché. Et pourtant il est mort pour nous. Alors nous avons aussi à réfléchir à ces choses-là et à comprendre que ce qui maintient justement les mariés ensemble, c'est la croix. Le sacrement du mariage, c'est un sacrement qui nous est donné par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider à porter la croix. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez bien mieux que moi à quel point dans le mariage chrétien, il y a des croix. De même que la première chose que j'ai trouvée le jour où j'étais ordonné prêtre en 79, c'est la croix du bon Dieu. Cette croix, le bon Dieu nous donne des grâces particulières pour nous prêtres, pour la porter et remplir nos obligations de prêtre. Vous, mariés, vous recevez le jour de votre sacrement de mariage, le jour où vous donnez le sacrement de mariage, eh bien, le bon Dieu vous donne les grâces d'État pour porter vos croix. Donc n'envisagez pas absolument, pas une seule seconde qu'il est possible d'avoir un mariage sans croix. Un mariage sans croix n'existe pas. Les mariages à l'eau de rose d'Hollywood, c'est ça les mariages sans croix. Le vrai mariage, c'est un mariage où on est deux à porter la croix. Et donc il faut que les choses soient claires. Quand je prêche pour les mariages en général, pas tout le temps, mais très souvent je prends une belle image qui est facile à expliquer. L'image de l'escalier colimaçon qui monte de la terre vers le ciel. Et il dit, pour qu'un escalier en colimaçon puisse tenir, pour que les marches de l'escalier puissent tenir, il faut un pilier central. Il n'y a pas de pilier central, l'escalier ne peut pas tenir, sauf dans les cas miraculeux comme l'escalier de Saint-Joseph à Santa Fe, l'état du Nouveau-Mexique, où Saint-Joseph a fait littéralement un miracle, on peut dire, pour qu'un escalier sans colonne centrale puisse tenir. Mais pour nous, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut une colonne centrale. Et cette colonne centrale, c'est quoi? C'est la croix. Et la croix qui représente ce pilier qui va soutenir toutes les marches que nous allons gravir au cours des années dans la vie conjugale pour justement pouvoir un jour atteindre le ciel. Et pour que cette croix tienne le coup malgré tous les vents, toutes les tempêtes, tous les ouragans qui vont se précipiter contre ce foyer qui se monte et qui veut aller vers le ciel et emmener les enfants vers le ciel, eh bien cette croix est aubanée. Il y a trois câbles en quelque sorte qui vont tenir la croix pour aider la croix à se tenir malgré les vents, les tempêtes, tenir debout sur le rocher sur lequel elle est plantée. Ce rocher, c'est quoi? Ce rocher, c'est le Christ. Les trois vents sont lesquels? Les trois vents, c'est l'unité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants. Donc si vous détruisez l'unité, vous coupez le vent de l'unité. La croix commence à pencher d'un côté. Si vous refusez l'indissolubilité, vous coupez le haut-vent qui tient la croix par l'indissolubilité, elle va pencher encore un peu plus. Si vous coupez en plus ses enfants, il n'y a plus rien. Et la croix s'écroule. La croix s'écroule, l'escalier s'écroule, il n'y a plus rien pour monter au ciel, on reste en bas, figé dans la boue du péché. Mais bien, cher frère, comme il est tellement important de comprendre ces choses-là, le mariage chrétien est un sacrement merveilleux, et c'est un sacrement qui nous aide à porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc expliquons cela à nos enfants pour que les mariages catholiques puissent tenir la route, puissent tenir le coup. Et si nous ne comprenons pas toutes ces choses-là, en face, croyez-moi, l'Église de Vatican II, Bergoglio, tous les ennemis de l'Église, ils n'ont qu'une idée en tête, détruire les moyens de salut. C'est de plus en plus clair. C'est ce que fait maintenant le démon de plus en plus, détruire les moyens de salut. Et comme il sait que la plupart des gens sont mariés, évidemment, la première chose qu'ils attaquent, c'est le mariage chrétien. Pour détruire ce mariage chrétien. Il y a une autre image qui est associée à ce miracle de Cana, ce qu'on appelle le mariage mystique, le mariage spirituel. Et je voudrais vous en parler parce que c'est pas très connu. Vous savez que dans la vie spirituelle, dans cet escalier qui monte vers le ciel, il y a trois étapes en quelque sorte. La première, c'est la vie purgative. Deuxième, c'est la vie nominative. Troisième, c'est la vie unitive. La vie unitive, on l'appelle le mariage spirituel, la vie mystique. Comparons avec, prenons une comparaison toute simple, très moderne, mais qui vous fera expliquer les choses. Imaginez une fusée. Une fusée énorme qui va décoller pour aller dans l'espace. Au début, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une puissance considérable pour arracher la fusée à l'attraction terrestre. Il va falloir des moteurs d'une puissance invraisemblable pour élever les tonnes et les tonnes de cette fusée, l'arracher à l'attraction terrestre pour qu'elle commence à monter dans l'atmosphère. C'est le plus dur. Ça, c'est la première étape, la vie purgative. Ensuite, les premiers réservoirs de carburant vont tomber et la fusée va continuer avec encore une énorme poussée, certes moins forte que la première partie parce qu'il y a moins d'attraction terrestre. Il faut continuer pour l'arracher complètement à l'atmosphère terrestre. C'est la deuxième partie, la voie illuminative. Et une fois que la fusée a atteint le vide intersidéral, souvent il n'y a plus besoin de moteur. Pratiquement plus, il n'y a plus besoin d'énergie, parce que la fusée a une vitesse initiale qu'elle va garder, et garder tout le temps dans le vide, justement. Et souvent elle peut garder, si elle a pris le bon cap, elle va garder son bon cap, et il n'y a plus besoin que des corrections de détails, parce que justement, en ce moment, il n'y a plus de résistance de l'air. Ça, c'est la vie mystique, c'est la vie unitive. Lorsqu'on suit notre Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord s'arracher au péché, s'arracher à la volonté propre. C'est la voie purgative. Purgare en latin, c'est purification. Il faut donc s'arracher à sa volonté propre, broyer sa volonté propre, écrabouiller la volonté propre, pour pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la vertu fondamentale de toute vie purgative, c'est la vertu de l'obéissance, la vertu d'humilité, la vertu de docilité, toutes ces vertus qu'on appelle les vertus passives, que les modernes méprisent tant, qui sont tellement importantes pour aller au ciel. On va pas au ciel, sans carrosse, donc on va pas au ciel sans humilité, sans obéissance et sans docilité, c'est impossible. Donc la première chose, c'est se couper du péché mortel, s'arracher au péché mortel pour justement pouvoir suivre notre Seigneur. Vie purgative. Au bout d'un certain temps, vie purgative, en général, le bon Dieu, au moment où la personne arrive, avec la grâce du bon Dieu, à se sortir du péché mortel, le bon Dieu va envoyer une épreuve terrible. On appelle la nuit des sens, l'enseignement de Saint Jean de la Croix, que je suis ici. La nuit des sens, c'est quoi? C'est la destruction totale de toute sensation. On ne sent plus rien. Beaucoup de gens veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à condition de sentir quelque chose. Ah, vous savez, je veux entendre les petits anges qui chantent. Mais on n'est pas sur la terre pour entendre les anges qui chantent. Les petits anges qui chantent, vous les entendrez au ciel, pas ici. Donc le bon Dieu va supprimer en quelque sorte toute consolation sensible. Pour être sûr qu'on ne suit pas les consolations du bon Dieu, mais qu'on cherche le Dieu des consolations. C'est pas la même chose. Ce qu'on appelle la nuit des sens. La nuit des sens peut durer pendant un certain temps. Toutes les personnes qui montent vers le ciel sont passées par ça. Après, on va à un deuxième étage. Le plus dur a été fait, mais il faut continuer de monter. Après, c'est ce qu'on appelle la vie illuminative. On peut recevoir maintenant les grâces du bon Dieu, parce que la particularité de la vie illuminative, c'est toujours la même, à savoir l'absence de péché mortel. Donc, il n'y a plus d'obstacle. Alors le bon Dieu peut donner ses lumières pour que cette âme puisse continuer de monter vers le ciel, vie illuminative. Et au bout d'un certain temps de vie illuminative, le bon Dieu va envoyer une deuxième épreuve, peut-être encore plus forte que la première, la nuit de l'esprit. Le bon Dieu, cette fois-ci, va enlever même les lumières apparentes de la foi. C'est bien apparente. Et on a l'impression qu'on est dans un tunnel et qu'on ne voit plus rien. Et tous les grands saints sont passés par là. Rappelez-vous Sainte Thérèse de l'enfant Jésus au couvent de Lisieux, qui était, comme disait-elle, comme un tunnel de nuit noire. Dans un tunnel, elle ne voyait plus rien, sentait plus rien, n'entendait plus rien, ne comprenait plus rien. Elle avait l'impression de même plus avoir la foi, l'espérance et la charité. Et dans un tunnel terrible, elle voyait simplement au bout du tunnel un petit point de lumière. C'est tout ce qu'elle voyait. Elle savait qu'il y avait une sortie là-bas. Et c'est avec là-bas, la sortie, il y a le bon Dieu qui m'attend. L'enfant Jésus m'attend. Elle a continué. C'est comme ça qu'elle est venue Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, pardon. Et tous les saints sont passés par ça. Et puis, une fois que cette nuit de l'esprit est passée, alors on rentre en vie unitive, en vie mystique. La vie mystique, c'est ça. La vie mystique, c'est une vie d'union totale avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus de péché mortel, bien sûr. Il n'y a plus de péché venial dans la pratique aussi. Il n'y a plus qu'un énorme, un immense amour du bon Dieu. Et cette troisième étape de la vie spirituelle, encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'étape unitive ou l'étape mystique, ou le mariage spirituel, selon certains auteurs. Eh bien, cette étape du mariage spirituel nous unit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le mariage est indissoluble, eh bien, ce mariage va durer pour toute l'éternité. Donc la conséquence logique de la vie unitive, c'est le ciel. Au ciel, tous les gens sont en vie unitive. Au ciel, tous les élus sont bien sûr dans la vie unitive, unis à notre Seigneur Jésus-Christ sans aucun obstacle. Ils ne peuvent plus perdre notre Seigneur. C'est impossible. Alors, mes chers frères, ne nous décourageons pas. Et quand nous voyons toutes les difficultés qui s'amoncellent sur notre route, et je crois bien, malheureusement, qu'on voit que le sommet de l'iceberg va devenir de pire en pire. Et si le bon Dieu, dans sa bonté, ne permet pas qu'on voit toutes les croix qu'on aura apportées dans notre vie, parce que je crois que sinon, on se serait complètement découragé depuis le début. Alors, il ne permet pas qu'on voit toutes les croix, nous les avons au fur et à mesure. Quand on croit qu'une croix a été enlevée, commence à récupérer un peu, à souffler, ah, plus de croix, paf, il y en a une autre qui arrive, tous les coups, c'est comme ça. Et le bon Dieu nous élève, pour nous détacher des choses de la terre, pour nous attacher à lui. Le seul être, mes bien chers frères, qui vous ne décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours déçus un jour par votre époux, par votre épouse, par vos enfants, par la belle fille, toujours. Ce sont des êtres humains. Le seul être qui ne décevra jamais, notre Seigneur Jésus-Christ. La seule façon d'être heureux dans la vie, c'est justement de monter, de garder notre regard vers le ciel, nous arracher à la boue du péché, monter vers le ciel, monter vers notre Seigneur Jésus-Christ par la vie. L'entrée dans la vie illuminative et enfin l'entrée dans la vie unitive qui nous amène directement au ciel. C'est pour cela que les docteurs spirituels qui ont parlé de ces choses-là, les grands saints qui en ont parlé, appelaient ça le mariage spirituel. Alors si vous trouvez peut-être que vos croix sont un peu lourdes, passez par celle que le bon Dieu justement a mis au pied de la croix, la Sainte Vierge Marie, elle est là. Ce n'est pas pour rien que le bon Dieu a mis au pied de la croix ton Seigneur Jésus-Marie, parce qu'il sait que la croix a quelque chose de lourd à porter. C'est rugueux, c'est pénible. Et donc il faut que notre Seigneur Jésus-Christ contrebalance en quelque sorte la rugosité de la croix, la rudesse de la croix, et donc il a mis au pied de la croix la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, à savoir notre Sainte Mère. Et au pied de la croix. Et quand nous sommes complètement découragés, eh bien, il nous faut suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Marie de l'Évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Marie et notre Seigneur Jésus-Christ? Ils n'ont plus de vin. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de grâce. Ça, c'est le symbole mystique. Il n'y a plus de grâce. Quand on est un petit peu découragé, parce qu'on est complètement découragé par le péché, par nos faiblesses, par nos chutes sans cesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ et dire, Seigneur, je n'ai plus de vin. Seigneur, je manque de grâce, j'ai besoin de grâce spéciale. Et peut-être que le bon Dieu va nous dire ce qu'il a dit à sa mère. On n'en est pas encore venu. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Et cette phrase très spéciale dans l'Évangile, qui est presque la dureté de notre Seigneur. Notre Seigneur n'est pas dur avec sa mère. En fait, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce n'est pas encore l'heure que j'ai choisie pour faire mon premier miracle. Mais n'oubliez pas que la très sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté du bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Marie ne dit rien, ne dit pas un mot à son fils, elle prie, c'est tout. Et comme elle sait que son fils va lui obéir, alors elle dit à ceux qui sont autour de la table et qui préparent, qui sont supposés amener le vin, faites tout ce qu'il vous dira. Et notre Seigneur Jésus-Christ va faire son grand miracle, il va changer l'eau en vin. Alors quand nous sommes justement découragés parce que les grâces ne sont pas là, passons par la très sainte Vierge Marie, et disons à la sainte Vierge, à la très sainte Vierge Marie la même chose. Oh Mère bénie, ma très sainte Mère, je n'ai plus de vin, j'ai besoin de grâce, donnez-moi les grâces dont j'ai besoin, parce que je suis en train de me décourager. La très sainte Vierge Marie va aller voir son fils, va lui dire, il n'a plus de vin, elle n'a plus de vin. Et la très sainte Vierge Marie obtient tout ce qu'elle veut du bon Dieu. Passez par elle. Ou quand on demande quelque chose au bon Dieu, le bon Dieu a le droit de dire non. Et quand c'est la très sainte Vierge Marie qui demande la même chose au bon Dieu, le bon Dieu ne peut pas dire non. Parce que la très sainte Vierge Marie a autorité sur notre Seigneur. Le cœur immaculé de Marie a autorité sur le Sacré-Cœur de notre Seigneur. C'est un grand mystère, mais c'est un mystère insondable, mais c'est comme ça. Alors, mes bien chers frères, passons par elle pour ne jamais nous décourager dans l'état de mariage. Passons par elle quand nous voyons que les croix sont de plus en plus difficiles, plus en plus lourdes à porter. Passons par elle. Demandons à Notre-Dame d'intervenir auprès de son divin Fils pour qu'elle nous obtienne, pour que le bon Dieu nous donne par elle toutes les grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.